Bonjour à tous. Deuxième journée des journées de l'économie avec toujours le même thème, le progrès social. Et un nouvel invité, Xavier Tembaum, que l'on remercie d'avoir accepté cette interview. Alors Xavier Tembaum, vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ce matin avait lieu une conférence sur les politiques non conventionnelles de la Banque centrale européenne menée lors de la crise. Pensez-vous que la BCE puisse aller plus loin dans ses politiques ou est-ce en fait trop tard ?
Alors oui, la BCE peut aller plus loin et même si c'est trop tard, elle peut quand même aller plus loin parce que techniquement, l'arsenal de politique non conventionnelle qui a été déployé dans les autres banques centrales, que ce soit au Japon, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, bah, n'a pas été employé avec la même ampleur en Europe. En fait, même de ce point de vue-là, l'Europe a été assez conservatrice. Le principal instrument non conventionnel qui a été utilisé en Europe, c'est les prêts à long terme aux banques, mais on peut aller beaucoup plus loin en intervenant sur d'autres marchés, dettes publiques, actifs privés. Mario Draghi a fait des annonces dans ce sens, donc un certain nombre d'instruments sont prêts à être utilisés. La doctrine n'est pas encore tout à fait arrêtée, et en tout cas, les choses n'ont pas été mises en place. Donc oui, c'est possible. Alors maintenant, est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est indispensable de le faire? Ça, c'est un débat qui est un peu compliqué. Oui, c'est certainement déjà en partie trop tard, parce que les signes de déflation commencent à se manifester de façon très sérieuse. Or, c'est une doctrine qui a été développée aux États-Unis depuis l'examen de la crise japonaise. Il faut absolument éviter les premiers signes de déflation, parce qu'une fois qu'elle se manifeste, il peut être effectivement trop tard pour en sortir. Bon, mais en même temps, quand on a commis cette première erreur de ne pas réagir trop vite, il ne faut pas renoncer et impérativement se mettre en route. Et après, il y a un autre élément qui est une question très importante, qui est de savoir est-ce que c'est possible pour la Banque centrale de mener une politique non conventionnelle sans danger, compte tenu de la politique budgétaire qui est menée. Et là encore, ce qui s'est passé dans les autres zones du monde est assez éclairant. L'idée, c'est que si vous faites de la restriction budgétaire et de la politique monétaire expansive, vous n'allez pas arriver à sortir l'économie de sa récession ou de sa stagnation et donc de son entrée en déflation. Mais comme la politique monétaire est extrêmement expansive, ça va avoir tous les effets pervers qu'on peut imaginer. Ces effets pervers, c'est des liquidités qui viennent alimenter des bulles, des effets différentiels sur les taux d'intérêt entre les taux d'intérêt emprunteurs pour certains emprunteurs, ceux qui sont très proches du marché interbancaire, les très riches, les banques, et qui vont pouvoir acheter des actifs qui, eux, sont plus valorisés, donc avoir des effets de levier ou des effets de carry trade entre des pays avec des effets sur le taux de change. Donc des effets très pervers qui peuvent d'abord générer des inégalités considérables. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si quelques personnes arrivaient à capturer toute l'impulsion qui est censée être donnée par la politique monétaire, au lieu que cette impulsion soit répartie de façon égale dans l'économie pour stimuler l'économie, mais en étant capturée par quelques-uns, elle augmente les inégalités sans relancer la machine, ou des effets pervers qui conduisent à accumuler des déséquilibres qui vont finir par éclater, et avec des retours de flamme qui peuvent être tout à fait extraordinaires et tout à fait négatifs et dommageables aux économies. Donc, cette question de la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire n'est pas du tout une question abstraite, et ça devient une question très concrète et qui, du coup, pose la question de l'opportunité de cette politique monétaire compte tenu de la politique budgétaire.
Et face à une zone monétaire qui est aussi hétérogène que l'euro, et donc des politiques budgétaires qui seraient nécessaires, qui peuvent diverger selon les pays, Est-ce que la solution est vraiment dans la politique monétaire ou est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de fondamentaux entre les pays?
Alors, il y a à la fois un problème de fondamentaux entre les pays qui appelle, disons, plutôt des réformes structurelles, mais comme il y a aussi un problème à court terme, à très court terme sur ces questions-là, il y a une question de politique budgétaire. En fait, cette hétérogénéité, elle peut difficilement être traitée par la politique monétaire, même si, en fait, on commence à réfléchir à comment faire une politique monétaire hétérogène pays par pays, avec l'idée qu'on pourrait avoir des règles macro-prudentielles spécifiques à chaque pays, contrôler le crédit aux ménages différemment en Allemagne de la façon dont il fonctionne en Espagne, par exemple, pour essayer de différencier les effets de la politique monétaire suivant les pays, être plus restrictif en Allemagne et moins en Espagne. Donc même si on réfléchit à ça, l'hétérogénéité, l'instrument principal pour traiter l'hétérogénéité, c'est la politique budgétaire, parce que elle peut être hétérogène, elle peut être hétérogène jusqu'à la granularité de la commune, elle peut être extrêmement adaptée à des situations différentes, elle peut organiser des transferts temporaires ou des transferts permanents, il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. C'est pas un seul instrument, en fait, la politique budgétaire, c'est un instrument qui est vraiment multidimensionnel et donc qui autorise, au moins théoriquement, à beaucoup de finesse dans l'approche. En l'occurrence, la contrainte budgétaire qui est posée est la même à tous les pays et elle surdétermine la politique budgétaire et elle écrase toute la possibilité de multidimensionnalité de l'instrument budgétaire et de son usage. Et donc, du coup, elle renvoie à une politique monétaire qui elle-même est très homogène. Et donc, face à cette question d'hétérogénéité, les politiques économiques en Europe ne peuvent pas répondre avec des politiques hétérogènes. Et du coup, ce qu'on observe, et c'est là où c'est très embêtant, on observe une divergence des pays et des régions européennes. Et cette divergence des régions européennes, elle renforce la question de l'hétérogénéité et l'inadaptation des outils. Et donc on est pris dans un cercle vicieux où l'hétérogénéité devient une nouvelle dimension. Donc, il est à la fois vicieux par le cercle budgétaire, activité, multiplicateur, par le cercle déflation, dette par la déflation, par le cercle anticipation à long terme qui se dégrade au fur et à mesure qu'on a des mauvais résultats, et hétérogénéité. Et donc, toutes ces dimensions-là sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, on se sent un peu démuni.
Puisque l'on a une telle difficulté à s'en sortir, est-ce que l'on ne pourrait pas regarder du côté des États-Unis ce qui a été fait il y a 2-3 ans avec... du quantitative easing, comme on l'a dit, ou du côté du Japon, du côté du Japon avec les Abenomics.
Si, et d'ailleurs, on regarde activement du côté des États-Unis, du côté du Japon, mais le nœud de toute cette affaire, paradoxalement, en ce qui concerne la politique monétaire en Europe aujourd'hui, c'est la question budgétaire. Et la principale différence qu'il y a avec le Japon ou les États-Unis, c'est qu'au Japon et aux États-Unis, la politique budgétaire n'est pas sous contrainte. Alors, il y a une contrainte budgétaire dans ces deux pays qui fait qu'il faudra un jour ou l'autre réduire les déficits, réduire la dette. Mais cette contrainte budgétaire n'est pas explicitée, imposée et n'est pas un corset rigide. Donc, du coup, on peut coordonner la politique monétaire et la politique budgétaire de façon à respecter sa contrainte budgétaire à moyen terme, au lieu d'être pris au piège comme en Europe, où on a une contrainte budgétaire à court terme, qu'on n'arrive pas à tenir, et qui va faire qu'on ne pourra pas tenir notre contrainte budgétaire à moyen terme. Donc on va perdre sur les deux tableaux, parce que justement, on a cette contrainte à court terme. Et c'est ça le nœud. Et en fait, aujourd'hui, c'est le nœud sur la politique monétaire. C'est-à-dire que si la politique budgétaire pouvait être coordonnée avec la politique monétaire, on pourrait avoir une politique monétaire plus agressive. Aujourd'hui, si on a une politique monétaire plus agressive, on risque d'avoir les effets pervers et pas les effets positifs. Et comme la politique monétaire est déjà très contestée par tout un tas de camps aujourd'hui en Europe, quant à sa légalité, quant au respect du traité, quant au respect du mandat, quant aux conséquences que pourrait avoir cette politique monétaire à moyen terme sur l'inflation, parce que c'est encore un débat qui paraît incroyable qu'on puisse craindre de l'inflation au moment où on accumule les indices de prix qui flirtent avec le zéro. Mais c'est un débat qui existe, et donc pour répondre à tous ces débats-là, la solution, ça serait des résultats, une coordination de la politique monétaire et budgétaire, etc. Et tout ça, on ne les a pas. Et donc, on est en train de s'enliser et de venir à ne pas conduire les bonnes politiques, ne pas avoir la bonne politique monétaire et ne pas pouvoir le faire.
Et c'est d'ailleurs le message de Draghi dans ses dernières interventions à propos du danger de la déflation. Ouais. Et cela ne pose pas d'ailleurs la question de l'indépendance dans les faits de la Banque centrale vis-à-vis du point de vue allemand qui est contre une expansion budgétaire.
La question, je ne pense pas que ce soit une question véritablement qui soit posée sur l'indépendance, parce que l'indépendance, en fait, c'est un mot qui est un peu vague, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et l'indépendance, elle est quand même garantie de fait par le mandat, par la gouvernance de la Banque Centrale Européenne, qui fait qu'elle n'est pas sous influence, au sens où elle n'est pas aux ordres de tel ou tel gouvernement, et donc dans ce sens-là, elle est indépendante. Maintenant, on ne peut pas être indépendant du réel, c'est-à-dire que tendance ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe, aux problèmes qui se déroulent. Et de ce point de vue-là, la Banque centrale semble, et Mario Draghi le montre chaque fois qu'il intervient, effectivement, être tout à fait attentive à ces questions. La vraie question, donc, ce n'est pas tellement la question de l'indépendance, c'est la question du mandat de la Banque centrale. Et c'est la question de la légalité de son action. Donc, le mandat de la Banque centrale est assez strict, il est y compris strict dans les opérations que la Banque centrale peut réaliser. C'est le fameux article qui interdit à la Banque centrale de prêter aux États et qui, donc, dans une interprétation très rigoureuse, interdit à la Banque centrale de détenir des obligations, y compris des obligations qu'elle aurait achetées sur le marché secondaire d'État, parce que ça serait d'une certaine façon prêté aux États. Ou est-ce qu'elle doit considérer que son mandat, en quelque sorte, est mal écrit et que son objectif principal, et donc qui est hiérarchiquement au-dessus des autres instructions, lui impose d'assurer la stabilité monétaire et financière de la zone euro, en particulier d'éviter que l'euro n'éclate, que quelqu'un sorte de l'euro ou que l'euro disparaisse, et que pour respecter cette instruction prioritaire sur toutes les autres, elle peut être obligée à violer certains de ses commandements secondaires, en quelque sorte. Vous avez tous lu Isaac Asimov, et donc vous connaissez parfaitement les lois de la robotique et la hiérarchie des lois de la robotique. La deuxième loi ne peut s'appliquer que tant qu'elle ne viole pas la première loi. Et la Banque Centrale Européenne est un petit peu dans ce cas. La première loi, c'est empêcher que l'euro éclate. Donc, si pour ça elle est obligée de racheter des obligations d'État, il n'y a rien qui ne doit l'en empêcher. Mais une fois qu'elle est assurée que l'euro ne doit pas éclater, sa deuxième loi lui dit qu'il ne faut pas acheter des obligations d'État. Mais c'est uniquement si ça n'est pas nécessaire pour remplir la première loi. Voilà. Donc cette hiérarchie, c'est aujourd'hui la position de la Banque Centrale Européenne, de dire qu'il y a une hiérarchie dans les commandements. Et il y a une question de légalité qui est posée, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. En fait, la Banque Centrale doit se débrouiller et respecter l'ensemble des commandements qui sont les siens, et donc en particulier ne peut pas racheter d'obligations. Donc ça, ce débat-là est un débat qui n'est pas celui de l'indépendance, qui est celui du respect du mandat et de l'interprétation de ce que c'est que le mandat de la Banque Centrale Européenne. Et on s'aperçoit que il faudrait peut-être lever cette incertitude. Ça serait assez simple de dire oui, il y a bien une hiérarchie, ou non, il n'y a pas de hiérarchie. À ce moment-là, qu'on explique comment on fait pour sortir de la crise sans sortir du mandat.
Nous sortons juste d'une intervention que vous avez faite sur l'ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. L'an dernier, on a eu Thomas Piketty sur les ondes de Transistor qui nous a fait une interview où il développait sa fameuse loi, doit dire loi après cette conférence, R supérieur à G. Et où il analyse la faiblesse de G résultant de différents phénomènes, vieillissement démographique, épuisement du progrès technique. Une question que l'on peut se poser, que l'on peut vous poser, c'est est-ce que ce G est-il faible inexorablement? Est-ce que supprimer certaines rentes ne permettrait-il pas de réduire à la fois R et en même temps d'augmenter G via un effet bénéfique sur la croissance qui avait été souligné par le rapport Attali, par exemple, ou par les nouvelles lois Macron que le gouvernement veut faire passer?
C'est ce qu'on pourrait aujourd'hui presque qualifier d'une approche nouvelle gauche ou troisième voie ou d'une gauche sociolibérale qui consisterait à dire oui, d'un certain côté, il y a une tendance à ne plus être dans une société fortement en croissance. Conformément à l'analyse qu'en fait Piketty, qui a été assez discutée, cette faible croissance induit des inégalités. Et donc, pour répondre à ça, en fait, il y a une espèce de baguette magique qui serait de lutter contre les rentes, ce qui diminuerait les inégalités, mais ce qui viendrait aussi apporter un peu de croissance, et un peu de croissance en plus, en soi, ça viendrait diminuer les inégalités, et donc ça serait une réponse assez positive. Alors, c'est un point de vue qui se défend. Il faut faire attention à une chose, à mon sens, c'est que il y a des relations très complexes entre inégalité et croissance, et entre croissance et inégalité. Et elles sont tellement complexes que quand on parle d'inégalité, de croissance, on peut parler de choses qui sont liées, mais aussi on peut parler de choses qui ne sont pas liées. On peut imaginer des situations où il y a beaucoup de croissance et des inégalités qui diminuent, des situations où il y a beaucoup de croissance et des inégalités qui augmentent. On a des tas d'exemples, en fait, dans l'histoire, dans l'espace, de ces éléments-là, de ces questions-là. On peut avoir des moments où il y a beaucoup de croissance, la formation de rente, et malgré tout, une diminution des inégalités, ou des situations inverses. Donc, les choses sont liées, mais en fait, elles peuvent être aussi, on peut en tout cas les aborder, en se disant elles ne sont pas liées. Et puis, par ailleurs, pour lutter contre les inégalités, le seul instrument n'est pas de lutter contre les rentes. Donc, il y a d'autres éléments pour lutter contre les inégalités, et il ne faut pas les oublier, ils font partie de la panoplie. Donc, c'est quoi ces instruments ? Ça va de la redistribution, qui est un instrument important, à l'éducation, qui est un autre instrument extrêmement important. Ça peut aller aussi sur les questions de normes sociales, de normes salariales. C'est des choses qui ont été abondamment montrées. Quand dans une entreprise, vous passez d'une rémunération collective et négociée collectivement à une rémunération individuelle à la performance, y compris quand vous objectivez la performance par des indicateurs de performance qui peuvent être négociés collectivement, en fait, quand vous passez de ce système collectif à ce système individualisé, ce à quoi vous aboutissez, c'est une augmentation des inégalités. Et cette augmentation des inégalités n'a pas nécessairement de lien avec l'augmentation de la performance de l'entreprise, le G en quelque sorte, ou éventuellement c'est à la diminution de sa performance. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait une diminution de la performance. Je vous donne un exemple. On rémunère aujourd'hui les commerciaux d'Airbus avec une prime sur les ventes qu'ils réalisent, ce qui permet aux commerciaux d'Airbus d'avoir des rémunérations considérables, parfois supérieures au PDG d'Airbus. Et par contre, les critères individuels qu'on applique à l'ingénieur d'Airbus vont être, eux, beaucoup plus modestes, parce que c'est le nombre de câbles qu'il a réalisés dans l'année ou le nombre de dessins qu'il a exécutés dans la semaine qui vont servir d'indicateur de performance. Et quand il y a un problème technique, on va plutôt essayer d'aller vers les ingénieurs pour leur en attribuer la faute. Et quand il y a un succès commercial, on va plutôt l'attribuer au vendeur qu'à l'ingénieur. Et donc, ça pose un énorme problème de différentiel de rémunération, parce que dans une rémunération individualisée, le commercial va tout capturer et l'ingénieur aura plus grand-chose. Alors que dans une négociation collective, chacun se serait félicité des succès commerciaux d'Airbus et aurait aussitôt dit c'est à la fois des bons vendeurs, mais aussi des bons ingénieurs et des bons ouvriers. Et puis, comment on fait pour répartir entre les uns et les autres ? On va se baser sur des éléments peut-être moins fins, mais qui, au fond, seront plus incitatifs pour l'entreprise que des systèmes individualisés. Et donc, vous voyez, il y a une espèce d'illusion qu'en mettant plus d'incitations, on va avoir de meilleures performances. Et donc, voilà. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent jouer sur les inégalités. Vous voyez, les inégalités, ça peut être des choses qu'on va régler de façon macro, la croissance, les rentes, la répartition par la redistribution. Mais ça peut être aussi des choses extrêmement microéconomiques, comme la formation des salaires dans une entreprise. Et chacun de ces instruments, en fait, doit être pensé, analysé. C'est pour ça que ça rend d'abord la question des inégalités très complexe et les solutions aux inégalités aussi très complexes. Il n'y a pas de baguette magique qui permette d'un coup d'un seul de réduire les inégalités. C'est peut-être au fond le reproche qu'on peut faire à Thomas Piketty d'avoir un peu laissé penser ça, même si lui-même n'en est pas convaincu, et peut-être que lui-même était convaincu d'une chose, c'est que si on part en disant le sujet est compliqué, plus personne ne va s'y intéresser, et que la simplification a probablement été la source du succès de Thomas Piketty, et paradoxalement, la source de son succès, c'est de pouvoir faire accepter aux gens que le sujet est plus compliqué que ce qu'il en a dit. Donc, presque un sacrifice, en quelque sorte, de sa part, dont il faut le féliciter, mais qu'il faut aussi bien comprendre.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Thimbault.